En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Lors de la séance du 8 janvier 2007, l'académicien Jacques Dupaquier faisait une communication sur le sujet « L'allongement de l'espérance de vie et ses conséquences multiples ». Pour l'année 2007, l'Académie des sciences morales et politiques a choisi comme thème de réflexion « Santé, médecine et société ». Les séances seront présidées par l'académicien Lucien Israël. Retrouvons de ce pas en séance Jacques Dupaquier.
Quoi de plus banal que le vieillissement? C'est un processus que nous éprouvons tous à titre individuel, un processus lent, insidieux, inéluctable et qui sécrète son propre analgésique. Mais ce n'est pas du vieillissement individuel, du vieillissement physiologique que je compte vous entretenir aujourd'hui, mais du vieillissement démographique, c'est-à-dire de l'augmentation du nombre et de la proportion des personnes âgées dans la société, et plus particulièrement en France, avec ses conséquences multiples. Ce vieillissement ne résulte pas seulement de l'allongement de l'espérance de vie, mais, du moins dans les pays riches, d'un renversement de la pyramide des âges. Les jeunes générations étant maintenant inférieures en nombre aux plus âgés. Il y a donc à la fois un vieillissement par le haut, dû à l'augmentation de la durée moyenne de la vie humaine, autrement dit de l'espérance de vie, et un vieillissement par le bas, provoqué par la dénatalité. Le phénomène est d'autant plus complexe qu'il est le fruit d'une longue histoire, qu'on peut résumer ainsi, une baisse séculaire de la natalité coupée par un épisode majeur, le bébé boom, qui correspond à peu près aux 30 glorieuses. Ce qui donne aux pyramides des âges, dans les pays développés, une forme très caractéristique en forme de meule de foin et plus du tout de pyramide. Vieillissement par le haut. Il se poursuit dans presque tous les pays du monde, sauf dans l'Afrique du Sud et de l'Est. Et il s'explique par le recul des maladies infectieuses. En effet, depuis les travaux de Pasteur dans les années 1880, la part des maladies infectieuses dans la mortalité est tombée de quelque chose comme 90% à 1,9% seulement dans la France d'aujourd'hui, alors que celle des maladies de dégénérescence est devenue prépondérante. Or, les unes et les autres, maladies infectieuses et maladies de dégénérescence, sont fonction de l'âge, mais en sens inverse. Les maladies infectieuses d'autrefois fauchaient prioritairement les jeunes enfants, alors que les maladies dégénératives frappent presque exclusivement les personnes âgées, d'où un renversement complet de la répartition des âges au décès. Deux importantes conséquences. La part des décès d'enfants s'est considérablement réduite. En Belgique, par exemple, où j'avais des statistiques que je n'avais pas pour la France, en Belgique, depuis 1880, la part des décès d'enfants est tombée de 26% à 0,7%. Celle des décès d'adultes de 10 à 65 ans, toujours dans l'exemple de la Belgique, s'est abaissée de 36 à 14%. Par contre, celle des décès du troisième âge est montée progressivement de 37 à 85%. Le recul de la mort aboutit donc, au moins dans les pays développés, à ce qu'on a appelé la rectangularisation de la courbe des décès, c'est-à-dire la courbe est horizontale pendant la plus grande, jusque vers 80 ans, puis ensuite tombe très rapidement. Et par voie de conséquence, évidemment, les pyramides des âges, c'est la même chose. Nos pyramides des âges ont la forme de cylindres bien davantage que de triangles. Même s'il n'y avait pas vieillissement par le bas, les pyramides des âges d'aujourd'hui, avec la mortalité actuelle, n'auraient plus la forme d'une pyramide, mais d'un édifice aux murs presque verticaux, la mortalité étant très faible jusqu'à 75 ans, coiffé d'un toit pentu au-dessus des derniers étages. L'espérance de vie à la naissance, ou durée de vie moyenne, à ne pas confondre avec la durée de vie maximale, qui en 1950 n'était de 46 ans pour l'ensemble de la planète, l'espérance de vie 46 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans les pays développés c'était 66, dans les autres c'était 41 ans, elle a atteint respectivement en un demi-siècle 75 ou 76 ans dans les pays développés, 64 ans dans les autres pays. Bien que les progrès en valeur relative aient été plus marqués dans les pays riches, l'écart entre ceux-ci et les pays pauvres s'est réduit de 25 à 11 ans entre les espérances de vie moyennes. Dans l'hypothèse d'une population stationnaire, c'est-à-dire où natalité et mortalité s'équilibreraient exactement, la pyramide des âges coïnciderait avec celle des survivants de la table de mortalité, c'est-à-dire que si nous étions dans le cas d'une population stationnaire avec la mortalité d'aujourd'hui, on devrait trouver environ 25% de jeunes, 49% d'adultes et 26% du troisième âge. Or, il n'en est pas ainsi. La répartition que nous observons s'écarte sensiblement de celle-ci, car le baby boom a considérablement rajeuni la population française et ses effets, au moins indirects, vont se poursuivre jusqu'au milieu du siècle au moins. Actuellement, en France, le pourcentage des jeunes est de 23,6%, suit des adultes de 54,6% et celui du troisième âge de 21,8%. C'est une situation transitoire qui va se modifier profondément au cours des décennies qui viennent. En effet, nous pouvons faire des projections démographiques. Je vous rappelle qu'une projection démographique, ça ne consiste pas à poursuivre les courbes observées, mais à calculer d'année en année, en fonction des effectifs à chaque âge et de la mortalité à chaque âge, ce que nous allons observer à cet âge-là de décès et de survivants l'année suivante. Donc c'est un calcul très sophistiqué, très compliqué, ce n'est pas une simple extrapolation. En effet, quand nous faisons des projections de population pour les populations âgées, n'oubliez pas que les populations âgées sont déjà nées. Quand il s'agit de faire des projections pour des populations jeunes, nous ne savons pas comment va évoluer la fécondité, mais en ce qui concerne les populations âgées, la mortalité évolue avec une régularité étonnante. Nous gagnons 2 à 3 mois, dans les pays occidentaux, 2 à 3 mois d'espérance de vie chaque année, et ce mouvement devrait se poursuivre. Toutes les projections dont je vais vous parler sont fondées sur l'observation des pyramides des âges reconstituées aussi bien que possible, puisque vous savez qu'en France, nos statistiques ne sont pas admirables, mais on fait ce qu'on peut. Et ensuite, des taux de la mortalité, d'une mortalité qui, sauf accident extraordinaire, ne devrait pas beaucoup se modifier. On peut ainsi penser que la France comptera au milieu du siècle plus de 20 millions de personnes de plus de 60 ans, toujours évidemment à 3 ou 4% près, hein, et que leur proportion dans la population métropolitaine, qui est actuellement de 20,5%, atteindra alors au milieu du siècle 32,7%, c'est-à-dire un Français sur trois sera du troisième âge en 2050 si les choses continuent à évoluer comme ça. Et dans cette population du Moyen-Âge, on trouvera à part égale ce que j'appelle des jeunes vieux, c'est-à-dire des gens de 60 à 74 ans, et des vieux vieux, c'est-à-dire des gens de 75 ans et plus, le nombre des grands vieillards dépassant quelque peu à ce moment-là celui des jeunes vieux. Pour l'instant donc, le vieillissement par le bas l'emporte nettement sur le vieillissement par le haut. Et c'est lui, bien plus que l'allongement de la durée moyenne de la vie humaine, qui bouleverse et surtout va bouleverser les structures démographiques, économiques, familiales et sociales des pays développés, de la France en particulier. En effet, pour l'ensemble des pays développés, nous n'avons encore assisté qu'aux prémices du vieillissement. Bien qu'on le dise, nous ne sommes pas encore vraiment des pays vieux, parce que les personnes de plus de 60 ans font partie des classes creuses nées avant la Seconde Guerre mondiale. Donc la proportion de vieux que nous avons, elle est seulement transitoire, elle ne peut qu'augmenter fortement dans les décennies qui viennent. Dans l'hypothèse où l'espérance de vie à la naissance progresserait encore de 3 ans dans le quart du siècle à venir, ces 3 ans étant gagnés surtout par les seniors, et de 2 ans supplémentaires de 2025 à 2050, l'âge médian de la population française, c'est-à-dire l'âge au-dessous duquel se trouve la moitié de la population et au-dessus duquel l'autre moitié. Cet âge médian devrait passer de 37,6 à 43,3, puis à 45,2. Et la proportion des personnes du troisième âge, de 20,5 à 32,7. Nous devrions avoir, normalement, en 2050, environ 120 000 centenaires, dont 15 000 hommes et 105 000 femmes. L'évolution serait similaire dans tous les pays développés, particulièrement en Europe, où l'âge médian atteindrait alors près de 50 ans, 49,5, les records mondiaux pour l'âge médian étant tenus alors par l'Italie, avec plus de 54 ans séparant la population italienne en deux moitiés égales, et le Japon avec un peu plus de 53 ans, ces deux États comptant alors plus de 42% de personnes du troisième âge. En outre, il y aura vieillissement du troisième âge lui-même, c'est-à-dire que progressivement, la proportion des vieux vieux, 75 ans et plus, rattrapera et dépassera celle des jeunes vieux de 60 à 74 ans. En 2050, l'aspect de la société française sera radicalement modifié, et elle ressemblera beaucoup plus à un hospice qu'un gymnase-club. Dans les rues, on rencontrera plus de grands vieillards que d'enfants et d'adolescents, du moins si les grands vieillards ne restent pas à ce moment-là claquemurés chez eux. Autre conséquence, la population active elle-même commence à prendre de l'âge, dès maintenant, pas dans le futur, mais dès maintenant. Entre 1995 et 2007, la part des jeunes actifs, j'appelle jeunes actifs des gens de 20 à 39 ans, dans l'ensemble de la population d'âge actif, 20-59 ans, cette part s'est réduite de 55% à 49%. Dans la population active, il y a plus de vieux actifs que de jeunes actifs, ce qui ne peut rester sans conséquence sur la mobilité de la main-d'œuvre et ses capacités d'adaptation. En outre, comme l'espérance de vie des femmes est et restera largement supérieure à celle des hommes, bien que l'écart ait tendance à se réduire, ce qu'on appelle le taux de masculinité, c'est-à-dire le nombre d'hommes pour 100 femmes, devrait s'établir pour les futurs septuagénaires à 90%, c'est-à-dire 90 hommes pour 100 femmes. Chez les octogénaires, 75%, c'est-à-dire 3 hommes pour 4 femmes, et pour les nonagénaires à 37%, c'est-à-dire 37 hommes pour 73 femmes. À condition évidemment que la mortalité continue à évoluer comme dans le dernier quart de siècle, ce que personne ne peut vraiment certifier, mais nous en discuterons, si vous voulez bien, tout à l'heure. Autre conséquence, les âges au décès sont de plus en plus élevés. Sur 100 décès masculins, 70 se situent maintenant après le 70e anniversaire, alors que vers 1930, 70% se situaient après le 36e anniversaire. Sur 100 décès féminins, 87 après le 70e anniversaire, au lieu de 54 vers 1930. De toute façon, quels que soient les progrès de la médecine, le nombre annuel de décès sur le territoire métropolitain, qui est de l'ordre de 520 à 550 000 par an, depuis une vingtaine d'années, va augmenter irrésistiblement pour atteindre environ 610 000 vers 2015, vers 2025, dans les conditions de mortalité d'aujourd'hui, et 750 000 en 2050, par un simple effet de masse, malgré les progrès de l'espérance de vie. Cet allongement de l'espérance de vie va bouleverser aussi le paysage familial. Contrairement à une idée reçue, il ne semble pas que l'augmentation de la durée moyenne de la vie nous fasse passer d'une société à deux générations à une société à quatre générations. Ici, en effet, intervient une autre variable, l'écart entre générations successives. Si cet écart était resté fixe, la chance de voir naître et grandir des arrière-petits-enfants augmenterait avec l'espérance de vie. Mais comme cet écart s'est accru de 3 ou 4 ans depuis la crise du mariage, c'est-à-dire depuis 1975, on devient maintenant grand-père ou grand-mère à 60 ans plutôt qu'à 50. Et compte tenu de la dispersion des comportements familiaux, je doute beaucoup que la proportion des familles à quatre générations puisse dépasser durablement 20% après une poussée provisoire explicable par les changements de comportement d'une génération à l'autre. En revanche, avec l'augmentation de l'espérance de vie, les familles deviennent plus complètes. Elles sont moins creusées par la mort. Elles sont plus homogènes, comme ça a été calculé par Alain Meunier et Sophie Pennec. Ils ont montré, d'abord, que le nombre et la proportion des orphelins se sont beaucoup amenuisés depuis le 19e siècle. La proportion d'orphelins au 10e anniversaire est ainsi descendue de 10% à 3% environ. L'âge moyen au décès de ses parents, de ses propres parents, a augmenté de 30 à 46 ans. 41 ans en moyenne pour la mort de son père, 51 ans pour la mort de sa mère. Jean-Paul Sardon aboutit par des calculs différents à des conclusions analogues. Selon lui, la proportion de femmes ayant encore leur mère à l'âge de 55 ans est passée depuis 1950, de 38 à 72 %. Quant à la probabilité de vivre assez longtemps pour voir mourir un grand-parent, elle s'est élevée chez les hommes de 68 à 86 % et chez les femmes de 71 à 89 %. Quant au risque de veuvage, il a évolué différemment pour les deux sexes. Pour le sexe masculin, le risque de veuvage est descendu de 45 à 27 %, alors que chez les femmes, le risque de veuvage a monté de 63 à 77 %. Mais les âges au veuvage se sont élevés pour tout le monde. Chez les hommes, l'âge moyen au veuvage est passé d'environ 50 à 74 ans, chez les femmes, de 48 à 70 ans. Désormais, le veuvage concerne surtout les personnes du troisième âge. Selon les mêmes auteurs, les dimensions de la parenté proche, je ne parle pas des cousins, des oncles, des tantes, mais de la parenté proche, les parents, les enfants, les petits-enfants, n'auraient guère varié d'un siècle à l'autre. Abstraction faite des décès de frères et sœurs en bas âge qui étaient très fréquents aujourd'hui et qui se sont réduits considérablement. Les auteurs soutiennent que le nombre moyen de parents proches vivants aurait même un peu augmenté en dépit de la dénatalité, du moins si on calcule, si on limite le calcul aux survivants. Aujourd'hui, c'est seulement dans 10% des cas qu'on meurt avant ses grands-parents. En effet, l'ordre dans lequel se produisent les décès dans une famille est de plus en plus directement en fonction de l'âge. Meurent d'abord les grands-parents, meurent ensuite les parents, meurent les enfants, meurent les petits-enfants. Ainsi, au cours d'une vie, l'expérience concrète de la mort est devenue plus tardive. Cette réorganisation des structures familiales a aussi des effets économiques. Elle contribue à bouleverser complètement les phénomènes de transmission du patrimoine et surtout à les retarder. Au XIXe siècle, 44% des femmes n'avaient pas connu leurs grands-parents. Actuellement, cette proportion n'est que de 31% et elle va diminuer encore. Quant à la proportion des mères mourant avant leurs enfants, elle est montée de 61 à 87% et celle des pères de même de 57 à 80. Il en résulte une augmentation considérable de l'âge à l'héritage. Au XIXe siècle, on héritait de son père à 28 ou 29 ans en moyenne. Aujourd'hui, à 41 ans environ du père et à 51 ans de sa mère. Ainsi, le patrimoine familial, au lieu de passer directement des adultes aux jeunes, est désormais transmis soit par de jeunes vieux à des adultes âgés, soit par des vieux vieux à de jeunes vieux. Ceci contribue bien évidemment aux difficultés d'établissement de la jeune génération et à la crise actuelle de la société. À de multiples points de vue que je ne développerai pas ici, le troisième âge apparaît comme le principal bénéficiaire aujourd'hui des transferts sociaux. Corollaire de l'évolution des paysages familiaux, nous assistons aujourd'hui à une formidable poussée de la solitude. En 40 ans, la proportion de personnes vivant seules a plus que doublé, passant de 6,1% de la population en 62 à 12,6% en 1999. Et si l'INSEE voulait bien nous fournir des statistiques, nous serions probablement maintenant autour de 14%. Ainsi, le nombre des ménages composés d'une seule personne a grandi formidablement. En 1962, je parle en proportion de ménages, n'est-ce pas ? Les ménages d'une seule personne, jeune ou vieille, c'était 19,6%. En 1975, 22,2%. En 1990, 31%. En 2004, c'est 34% des ménages qui sont composés d'une seule personne. La croissance des ménages composés d'une seule personne explique à elle seule la moitié environ de l'augmentation du nombre total des ménages. Elle est en grande partie responsable de la crise du logement, car l'augmentation de la solitude crée chaque année une demande supplémentaire de 125 000 logements. Le nombre moyen d'habitants par logement, qui était de 3,1, est maintenant de 2,4. Nous sommes en moyenne à 2,4 personnes par logement. Et il devrait tendre progressivement vers 2,1. Bien entendu, la montée de la solitude ne s'explique pas seulement par l'augmentation de l'espérance de vie. La crise du mariage, je passe sur les chiffres, mais vous la connaissez, la crise du mariage, la fréquence des divorces, 116 000 divorces contre 273 000 mariages en 2005, les sorties du foyer parental, la décohabitation juvénile explique à peu près pour moitié l'augmentation de la solitude. Mais le fait majeur est l'augmentation du veuvage féminin. À partir de 50 ans, la proportion des femmes seules progresse remarquablement. Elle dépasse très vite le nombre et la proportion des hommes seuls. À 85 ans, une femme sur deux vit seule, contre à peine un homme sur quatre. Et au-delà de cet âge, vous le savez, les personnes âgées vivent de plus en plus en institution. L'an passé, le nombre de personnes âgées dépendantes vivant en institution atteignait 473 000, dont les trois quarts de femmes. Ces changements sont confortés et rendus presque irrésistibles par le vieillissement du corps électoral. Ce phénomène a fait l'objet d'un remarquable article de Philippe Boursier de Carbon dans la revue Administration, sous le titre « L'irrésistible essor du pouvoir gris ». Il l'a remis à jour 5 ans plus tard, et sous un titre voisin, « Le vieillissement de la démocratie ». L'auteur montre d'abord l'écart qui existe entre les notions de population majeure, c'est-à-dire de plus de 18 ans, de corps électoral, c'est-à-dire de citoyens inscrits sur les listes, et de votants, parmi lesquels on pourrait distinguer aussi les suffrages exprimés, mais je n'irai pas si loin. Au 1er janvier 1995, on pouvait estimer la population majeure de la métropole, citoyenne ou non, à 44 et quelques millions. Le corps électoral potentiel à 43 et quelques millions. Le corps électoral réel, c'est-à-dire de gens vraiment inscrits sur les listes, à 39 millions. L'âge médian des inscrits à 46,7 ans, 48 pour les femmes. Et cependant, comme le taux de participation augmente nettement avec l'âge, on peut estimer que l'âge médian des votants était déjà en 1995 proche de 50 ans. 8% seulement des votants avaient moins de 25 ans. 31% avaient plus de 60 ans. Actuellement, l'âge médian des votants augmente d'une année en moyenne par an. Le phénomène ne peut donc que s'accentuer dans les années qui viennent. Il est bien difficile de faire des prévisions sur le pourcentage des inscrits et sur celui des votants, car beaucoup de facteurs entrent en ligne. Mais on peut, d'après les projections utilisables de l'INSEE, calculer la répartition par groupe d'âge de la population majeure de la France métropolitaine en 2025 et 2050. Je vais aller vite. Je publierai les chiffres dans la communication, mais je ne vais pas vous les infliger. En gros, les groupes d'âge 18 à 54 ans représentaient en 2007 64% de la population majeure. En 2050, cette proportion devrait tomber à 51,5%. Et les votants âgés, au contraire, c'est-à-dire de plus de 65 ans, sont actuellement, prochaines élections, 21,2%, et leur proportion devrait monter progressivement à 34,3%. Ainsi, la proportion des Français de 65 ans et plus dans la population majeure devrait fortement augmenter. Je me garde d'en tirer des conclusions politiques mécanistes, mais on ne peut douter du fait que le corps électoral deviendra de plus en plus conservateur. Venons-en au point central, les conséquences économiques du vieillissement. La plus spectaculaire, évidemment, est la crise des retraites, mais comme elle a été très bien analysée par Jacques Bichot et par Jean-Michel Charpin, je n'ai nullement l'intention de vous faire un traité des retraites. Je vais donc me contenter d'en rappeler les contraintes démographiques en me limitant au plus simple, celles des régimes français de répartition. En principe, pour qu'un système par répartition marche, il devrait y avoir équilibre entre les recettes alimentées par les cotisations des personnes actives et les dépenses constituées par les pensions des retraités. En fait, le fonctionnement est perturbé par divers facteurs, le chômage, la faible activité des femmes avant 1975, beaucoup de femmes ne se sont pas créés de droit à la retraite, les privilèges des régimes spéciaux, les droits accordés aux professions sinistrées, je pense en particulier petits commerçants, petits artisans, etc., et aussi le nombre d'années de cotisation à prendre en compte pour le calcul des retraites. Je me limite donc au calcul des effectifs cotisants et à celui des bénéficiaires. Si nous prenons comme limite d'activité le 20e et le 65e anniversaire, au 1er janvier 2006, la population des cotisants potentiels, ça ne veut pas dire qu'ils cotisent effectivement, mais ils pourraient cotiser, est de 35 860 000. Celle des bénéficiaires de 10 035 000, ce qui correspond à 100 retraités pour 357 cotisants, ce qui est une situation saine. Mais avec l'abaissement de l'âge du départ en retraite, le nombre des cotisants s'est réduit à 33 millions, nous en avons aujourd'hui que 33 120 000, tandis que celui des bénéficiaires a énormément augmenté, nous en avons aujourd'hui 12 770 000. Je parle ici évidemment en termes démographiques. Soit 100 retraités pour 259 personnes, cette réforme de l'âge du départ en retraite fut un changement radical dont, sur le moment, on n'a pas bien mesuré les conséquences lointaines. Ce changement serait encore plus radical si vous pensez que l'âge d'entrée en activité est maintenant plus proche de 25 ans que de 20. Dans ce nouveau calcul, si vous considérez que les gens cotisent en fait à partir de 25 ans, il ne reste plus que 29 200 000 cotisants. Et pour 100 retraités, nous avons aujourd'hui 228 cotisants. Ceci, en théorie, si le système marchait d'une manière mathématique. Or, ces chiffres théoriques sont encore bien loin de la réalité. J'ai consulté les statistiques du ministère du Travail. Eh bien, la population active de la France n'atteignait en 2005 que 27 600 000 personnes, dont 24 900 000 avaient effectivement un emploi, ce qui ne donne plus pour 100 retraités que 195 cotisants effectifs. Selon les projections déjà citées, la population potentiellement active devrait s'élever à 27 770 000 en 2025 et celui des retraités à 18 357 000 du fait du vieillissement des générations du baby boom. Cela laisse présager, en gros, dans les 20 années à venir, 2 retraités pour 3 actifs. Il est évident que notre magnifique système de retraite ne pourra survivre au choc démographique provoqué par l'arrivée à l'âge de la retraite des enfants du bébé-boom, et les réformes déjà faites apparaissent comme dérisoires par rapport à l'ampleur du problème. En principe, je ne vois que 4 solutions pour le sauver. Il faudrait augmenter les cotisations des actifs si on veut garder les retraites et le départ à 60 ans. Il faudrait monter les cotisations des actifs de 51%. Une deuxième solution consisterait à diminuer le montant des retraites. Il faudrait les diminuer de 34%. Troisième solution, peut-être moins douloureuse, relever l'âge de départ en retraite. Eh bien, tout calcul fait, si on va jusqu'en 2025, ce n'est pas à 65 ans qu'il faudrait le relever, c'est à 67 ans pour retrouver l'équilibre actuel. Il y a un quatrième moyen, celui préconisé par M. Telade, prier le ciel pour que le taux de croissance de l'économie française remonte durablement à 3% par an et que les cotisants acceptent d'en laisser le bénéfice aux retraités. Nous en arrivons maintenant au facteur décisif, le coût de la santé et de la dépendance, qui augmente beaucoup plus vite encore que celui des retraites. En 2005, le total des dépenses médicales de la nation a dépassé 190 milliards d'euros, soit un peu plus de 11% du PIB. Il a augmenté de 5,4% en moyenne annuelle entre 90 et 95, puis de 3-5% entre 1995 et 2000. De cette croissance, la démographie n'a été jusqu'ici que peu responsable. Le vieillissement n'a compté que pour 3 pour 1000 à peu près dans le déficit du système des dépenses de santé. Mais désormais, avec l'arrivée des classes nombreuses du bébé-boom à l'âge de la retraite, la part du vieillissement dans l'augmentation des dépenses de santé devrait s'élever très rapidement à 1% supplémentaire par an. Ça peut sembler pas grand-chose, mais cela, évidemment, il est douteux que les dépenses de santé par tête puissent se stabiliser au niveau actuel. Pourtant, la population française ne se porte pas mal. Nous voyons que, j'avais fait un colloque là-dessus, l'espérance de vie sans incapacité augmente, elle aussi, en même temps que l'espérance de vie tout court. La seule incapacité qui augmente plus vite que l'espérance de vie, c'est la démence sénile et la maladie d'Alzheimer. Il y a des divergences sur les chiffres. Les chiffres les plus modestes parlent de 435 000 malades en l'an 2000 et de 100 000 cas nouveaux par an, dont les deux tiers concerneraient des personnes âgées de 80 ans et plus. Sur ces bases, et compte tenu de l'accroissement du nombre des vieux-vieux, les spécialistes annoncent 1 100 000 cas de démence sénile vers l'an 2020. En règle générale, la santé se détériore avec l'âge, plus ou moins vite selon les individus. Le processus a été analysé au cours d'un colloque organisé en octobre 2001 par l'Académie des sciences. Je n'ai pas l'intention d'y revenir, ni même d'en résumer les actes, mais seulement de rappeler les chiffres les plus récents concernant les causes de mortalité en France, les causes de mortalité liées au vieillissement. J'ai la statistique pour l'an 2002. 535 000 décès, 158 000 résultant des maladies de l'appareil circulatoire, 153 000 résultant des cancers en hausse constante, et les autres chiffres bien moindres, 33 000 par les maladies de l'appareil respiratoire, 24 000 par les maladies de l'appareil digestif, etc. J'aurais bien voulu préciser l'incidence de ces causes de décès en fonction de l'âge, mais je n'ai pas voulu m'y lancer. C'était un très gros travail et ma communication en eût encore été allongée. Or, les dépenses de santé sont en fonction de l'âge. Selon les statistiques du CREDES, qui avait été établi en 1977, le coût moyen par tête s'établissait ainsi en francs de l'époque. Jusqu'à 5 ans, 820 francs par tête. De 5 à 19 ans, 600. De 20 à 39 ans, 840. De 40 à 59 ans, 1300. De 60 à 79 ans, 2700, c'est-à-dire un doublement. Et de 80 à 89 ans, 4200. J'ai maintenant des statistiques plus récentes, datant de 91, mais je les publierai. À moins que vous ne me posiez des questions précises. Résumons-nous. Sur la base de 100 pour les dépenses de santé des jeunes adultes des deux sexes, on atteint 159 pour les adultes âgés, 316 pour les sexagénaires, 407 pour les septuagénaires, 530 pour les octogénaires. Dans l'hypothèse d'une irréaliste, d'une stabilisation des dépenses par tête et par âge, et en prenant comme base les projections démographiques de l'INSEE, voici comment pourrait évoluer le budget de la santé jusqu'au milieu du siècle, à condition qu'on ne dépense pas plus par tête qu'aujourd'hui. En 2010, 884 milliards de francs, en 2020, 959, en 2040, 1100 milliards de francs, soit une croissance de 40%. La part du troisième âge dans l'ensemble des dépenses médicales tend à augmenter, elle aussi. Elle est actuellement de 45,4%. Elle devrait atteindre 61,9%. Alors, le budget social budget social y compris les retraites, finirait par représenter le tiers du PNB et l'État-providence serait en faillite. J'insiste sur le fait que ce sont des prévisions chiffrées, calculées sur des données solides, la répartition par âge de la population, l'étape de mortalité. Il faudrait une révolution biologique pour s'en écarter sensiblement. Les progrès médicaux attendus pourraient atténuer ces menaces, mais d'un autre côté, ils vont prolonger encore l'espérance de vie. Il est donc douteux qu'ils permettent de grosses économies dans le domaine des soins, sauf peut-être la médecine préventive qui n'absorbe actuellement qu'une fraction minime du budget de la santé, c'est-à-dire 3%. Existe-t-il des remèdes au vieillissement ? Sur le plan individuel, on connaît des procédés efficaces, une existence régulière, une alimentation équilibrée, la pratique d'un sport, un suivi médical, mais elles ne peuvent que retarder les échéances. Sur le plan collectif, on ose imaginer que l'euthanasie, une fois tolérée, finisse par devenir obligatoire, comme dans le film Le Soleil Vert. Ce serait un remède barbare, digne de l'idéologie du Troisième Reich. Il ne reste donc que deux solutions envisageables pour freiner les effets du vieillissement, une immigration massive ou une reprise de la natalité. Mais ces deux remèdes ne sont que partiels, comme je vais vous le montrer en conclusion. Une immigration massive, le remède a été proposé d'une manière volontairement provocante par la division de la population des Nations Unies au début de l'année 2000. Les Nations Unies aboutissaient à la conclusion que pour conserver le rapport actuel entre nombre des actifs et nombre des retraités, qui est à peu près 4 pour 1 en moyenne, et ainsi empêcher l'effondrement des systèmes de retraite, l'Europe devrait accueillir, tenez-vous bien, 700 millions d'immigrés d'ici 2050. La France, à elle seule, devrait en recevoir 90. C'est-à-dire que l'Europe devrait accueillir à peu près le double de sa population actuelle totale. Si on prolonge ce raisonnement par l'absurde, on s'aperçoit que la Chine, pour maintenir le même rapport, devrait importer environ 6 milliards d'hommes et on se demande où elle irait les chercher. Selon le démographe Michel Loriot, cette hypothèse absurde suppose que l'Europe pourrait accueillir et digérer en un demi-siècle à peu près 3 fois l'équivalent de sa population actuelle. Alors les immigrants et leurs descendants représenteraient à l'horizon 2050 les 3/4 de la population européenne. En dernière analyse, le seul antidote au vieillissement démographique serait une vigoureuse reprise de la natalité. Mais je vous rappelle qu'elle ne pourrait pas avoir d'effet immédiat. Il faudrait attendre que les bébés ainsi nés puissent s'insérer à la population active et devenir ainsi des cotisants. À mon avis, il faut donc pour le moment se contenter de modestes politiques de la vieillesse. Sur le plan économique, chercher à favoriser l'allongement de la vie active, à assurer une transition entre celle-ci et la retraite, et aussi à réduire le coût de la prise en charge des personnes âgées. Sur le plan social, le problème le plus urgent est d'assurer l'insertion des personnes âgées dans l'ensemble de la population, au besoin de les y réintégrer et d'éviter le renforcement des inégalités après la retraite. Du point de vue médical, apparaît clairement la nécessité de développer les services de gériatrie et les recherches correspondantes afin de prévenir ou de retarder, ou plutôt de limiter, l'apparition des grandes et coûteuses incapacités liées au vieillissement. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre l'académicien Jacques Dupaquier faisant une communication devant l'Académie des sciences morales et politiques sur le sujet « L'allongement de l'espérance de vie et ses conséquences multiples ». C'était le 8 janvier 2007.